C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi avec des citoyens du climat et la communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime qui vous incite à planter des arbres.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui sème ses graines dans le Finistère et qui plante aussi parfois. Et là, on plante sans se planter en compagnie des citoyens du climat, comme on le fait une fois par trimestre. Les citoyens du climat, c'est un réseau ouvert à toutes les habitants de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. Les citoyens du climat qui ont eu l'idée, parmi les nombreuses idées, de proposer un achat groupé d'arbres. En fait, on voulait proposer des fruitiers, c'est plus difficile. Et parce qu'il faut réserver un an à l'avance pour les grosses quantités. Mais pour les plans forestiers, c'était plus facile, c'était faisable. Et on a quand même eu 30 personnes intéressées pour 650 arbres. On peut donc dire que l'opération est un succès. C'est du local puisque c'est la pépinière des Trois-Rivières du Fou qui fournit. L'opération sera peut-être renouvelée avec d'autres pépiniéristes de la Comcom. On verra, puisque c'est bien la Comcom qui finance l'animation du réseau citoyen du climat, un réseau donc intercommunal. L'animation est assurée par l'association Énergence. Et il y a donc aussi avec nous en plateau un citoyen du climat qui était éleveur avant et qui pratiquait et qui connaît en tout cas bien l'agroforesterie à Rosnoen, Joël Guiriec, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut planter en agriculture et pourquoi. Et puis il y a aussi un invité élu de la Comcom et surtout professionnel de la forêt, puisqu'avant d'être en retraite, il était agent de l'Office national des forêts, c'est Marc Pasqualini. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Marc, on dit plan forestier, même si en fait, ce n'est pas forcément des arbres de forêt tels qu'on se les imagine. Qu'est-ce que ça peut être un plan forestier?
Je pense que si on remonte très très en amont, tous les arbres sont issus des forêts. Hein. Ouais. Donc, plan forestier, ouais, un arbre est fatalement dans son ascendance un plan forestier, un arbre forestier.
Et chez nous, c'est quoi les plans forestiers les plus adaptés ou les plus populaires?
On va parler les plus fréquents, le chêne, le hêtre, le châtaignier. Pour ne pas faire de discrimination, on va aussi citer quelques résineux. Hein.
Mais oui, quand même. Oui, bien sûr.
Le sapin, le pin sylvestre et tout un tas d'essences forestières après qui sont venues au fil et à mesure des siècles et des millénaires. Le châtaignier, par exemple, n'était pas en Bretagne il y a ça quelques millénaires. Donc, a priori, ce sont les Romains qui l'ont amené ici. Donc, les arbres ont beaucoup voyagé.
Oui, parce que c'est difficile de dire une espèce endémique. En plus, ça change. Là, il y a des espèces de chênes, par exemple, qui poussaient pas très bien chez nous, mais qui vont devenir plus adaptées, non, au Finistère, au fur et à mesure que ça va s'assécher.
Oui, c'est vrai. Mais c'est une. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avec les bouleversements climatiques, on plante aujourd'hui en Bretagne, par exemple, des chênes dont l'origine génétique c'est la Charente-Maritime. Voilà, alors que classiquement, on mettait dans l'ouest de la France des chênes issus de l'ouest de la France. Donc aujourd'hui, on va chercher des souches un petit peu plus méridionales, voire méditerranéennes, hein, pour se préparer aux changements qui sont là. Ouais. Et dont on pense qu'ils vont être pires que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Et puis il y a les espèces qu'on a beaucoup plantées chez nous dans le Finistère et qui ne vont plus si bien, comme l'épicéa de Sitka par exemple, c'est ça?
Voilà, ben c'est vrai que là on parlait du voyage des arbres, il n'y a pas que les arbres qui ont voyagé, il y a des parasites qui ont voyagé beaucoup, avec pas forcément leurs prédateurs. Hein. Donc l'épicéa de Sitka que vous évoquez, effectivement, donc a fait l'objet d'atteintes importantes par un insecte qui nous vient d'Asie. Et il n'y a pas le prédateur de cet insecte.
Il n'est pas encore arrivé chez nous, quoi.
Non, mais donc on l'a installé. Hein. On a développé des productions en fait d'insectes qui s'attaquent à l'insecte nocif sur l'épicéa de Sitka.
Ah oui, on en est là. Et alors sinon, ce qu'on appelle plan forestier, ça peut être finalement des arbres qui sont plutôt des arbustes, enfin, soit des petits pommiers, c'est ça, ou même du noisetier, ou à partir du moment où ils ne sont pas greffés, c'est ça en fait, en gros, ce qui définit un plan forestier?
Pas vraiment, je pense que la meilleure définition, donc, c'est son origine qui est la forêt. Hein. Après, en forêt, il y a différentes strates. Hein. C'est d'ailleurs la forêt qui a permis d'imaginer ce qu'est la permaculture aujourd'hui. Hein. La permaculture, la forêt naturelle, c'est de la permaculture. Il y a un étage dominant,
Les grands arbres.
Des grands arbres, des grands arbres, des beaux chênes, des beaux hêtres. Et puis en dessous, vous avez d'autres arbres qui se complaisent dans une certaine ombre.
Par exemple,
le hêtre sous le chêne, c'est un grand classique. Hein. Ou dans l'est de la France, le charme sous le chêne. Et les plus beaux peuplements de chênes, ce sont des chênes qui sont gainés en fait par des hêtres ou des charmes. Donc le sylviculteur, lui, il a observé ça. Il se dit, tiens, il y a des beaux chênes, ils sont bien droits, ils n'ont pas de branches, parce qu'il y a du hêtre ou du charme en dessous. Donc c'est ce qui a fait imaginer donc des systèmes forestiers qu'on connaît aujourd'hui à plusieurs étages.
Et puis les étages plus bas encore.
Voilà, non, les étages plus bas, par exemple, il va y avoir du noisetier, il va y avoir...
Du houx.
Du houx. Ah ouais.
Même
du
si les houx, ils deviennent super grands maintenant, les houx. Hein.
Ouais. L'if aussi, hein, Joël.
Oui. Ouais. Ouais.
Et alors Joël, qu'est-ce qu'on peut mettre déjà dans un jardin comme essence forestière, enfin la Ligue citoyenne du climat, finalement, ce qui a été proposé par la pépinière, c'était qu'il n'y avait pas tellement de chênes, il y en avait, hein, mais c'était plutôt des arbres un peu plus petits.
Je pense que dans un jardin, il faut faire attention quand même, on ne se rend pas compte de ce que peut donner un petit plant qu'on va mettre en place et qui va ensuite prendre de la place et puis qui va gêner les voisins. Donc c'est plutôt une source de soucis qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier à ne pas prendre des essences comme du chêne ou même du hêtre ou bien des conifères qui poussent très droit, qui poussent très vite. Et je pense qu'il faut plutôt aller vers des arbustes, effectivement, qui sont beaucoup plus adaptés, où on peut les tailler en forme de massif pour éviter leur empreinte trop importante. Quoi.
Et c'est quoi, par exemple, ces arbustes ?
On parlait de la bourdaine, on parlait du noisetier, mais de plantes aussi un peu ornementales, disons, qui font des massifs sympas, qui ont des couleurs, et puis qui permettent aussi de garder... les oiseaux et une bonne biodiversité au niveau des jardins, puisque maintenant, les jardins, je pense qu'ils ne vont pas souvent être plus de 1000 mètres carrés, hein, c'est pas possible. Donc, il faut faire attention vraiment au voisinage, quoi. Et on concentre aussi l'habitat pour ne pas avoir un habitat trop dispersé. Donc, peut-être moins chez nous, on a encore des très grandes parcelles qui peuvent devenir des jardins dans la mesure où il y a une certaine déprise agricole.
Oui, parce qu'on a vu dans les commandes des citoyens du climat, il y avait quand même des grosses commandes, enfin des grands domaines sans doute. Les gens ont des parcelles quand même encore.
Oui, c'est ça, il y a encore des parcelles parce que souvent cette parcelle-là sont vendues avec le corps des anciens bâtiments d'exploitation, ce qui fait que bon, il y a des gens qui recherchent encore évidemment des surfaces assez importantes. Et là, effectivement, on peut envisager des plantations vraiment d'arbres. Bon.
Mais ceci dit, parfois quand même, il y a un problème avec les arbres. On a vu beaucoup des tuyas, ces résineux qui étaient plantés là, en ligne pour cacher des hangars.
Oui, c'est à partir des années 60 où on a essayé de protéger un petit peu les bâtiments d'exploitation, surtout des grands vents qui nous viennent d'ouest, sud-ouest.
Ah, c'était pour les vents qu'on mettait ça ?
Je pense quand même. Je pense que c'était essentiellement pour ça, oui.
Ouais.
Donc tout autour de chaque exploitation, on voit ces cyprès-lambert, ces tuyas, effectivement.
Ah, c'est ça, les cyprès-lambert.
Voilà, fameux cyprès-lambert qui sont en train de tomber là maintenant.
Oui, c'est ça, parce qu'ils vieillissent très mal aussi.
C'est-à-dire que la durée de vie d'un cyprès-lambert dépasse rarement les 50-60 ans. Après, les branches cassent au fur et à mesure, même s'ils sont bien ancrés dans le sol. Et ils peuvent même se déraciner si on n'a pas de sol suffisant, s'ils sont sur d'une roche-mère, par exemple.
Ah oui, et Marc, les cyprès-lambert, il y en a en forêt
Ils ont été surtout plantés en zone littorale.
Ah oui.
Après, c'est un super bois d'œuvre, hein, le cyprès de Lambert. On a souvent sous-estimé ses qualités, mais c'est un bois d'œuvre qui est merveilleux.
Et oui, là, c'est le forestier qui parle. C'est-à-dire qu'on fait aussi de la forêt parce que les gens veulent du bois pour la construction, plus en plus.
Oui, absolument. Et j'ai encore en mémoire une poutre dans une crêperie sur la presqu'île de Crozon. C'est une énorme poutre en cyprès de Lambert. Et au début, j'ai cru que c'était du merisier. C'est un très beau bois.
Et imputrescible et tout ça, comme beaucoup de résineux, c'est ça ?
Énormément de qualité, beaucoup de qualité.
Uh-huh. Ouais. Oui, et qu'est-ce qu'il y a encore comme plantation ? On n'en a pas trop parlé, parce que c'est moins le sujet, mais des plantations pour le bois d'œuvre en Bretagne, dans le Finistère, qu'est-ce qu'il y a à signaler ?
Classiquement, ce sont les bois d'œuvre qu'on retrouve un petit peu partout en France, le chêne, le hêtre, le merisier, bon, qui a connu son heure de gloire il y a de cela une quarantaine d'années, mais qui est complètement, aujourd'hui, un bois qui n'a plus trop de valeur. À
pourquoi
venir. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Un meuble en merisier pour déménager, ça pèse quelques dizaines de kilos.
C'est trop lourd.
C'est pas facile, c'est trop lourd. Puis
Mais pour la construction de bois, des maisons en bois, là, c'est tendance. Hein. Le merisier, c'est pas...
Non. On va plutôt partir sur du résineux comme le Douglas, ou du châtaignier, ou du chêne. On peut faire de très très belles charpentes en Douglas, en sapin, en châtaignier ou en chêne.
Et le résineux, ça pousse plus vite, c'est ça l'intérêt?
Ça pousse plus vite, c'est un intérêt d'un certain côté, mais un bois qui pousse trop vite non plus ne présente pas forcément les mêmes qualités mécaniques qu'un bois qui pousse plus doucement.
Mmh. Et alors, en agriculture, on a un petit peu déjà évoqué avec l'histoire des tuyas qui protègent les hangars, mais Joël, c'est quoi les espèces qui étaient utilisées déjà classiquement, peut-être même pour des fruits, pour autre chose
Alors, moi, je me suis installé en 1984, et à cette époque-là, c'était le boom agricole, on va dire les 30 glorieuses aussi, en agriculture. Et donc, les parcelles ont été agrandies suite au remembrement, pour essentiellement le passage de la mécanisation, des gros tracteurs, des gros engins. Et du coup, je dois dire que ce soit mon père, mes parents ou moi-même, on n'était pas très, très motivés pour replanter, parce qu'on venait d'arracher les talus et puis et les fruitiers qui étaient dans les
champs.
Vous
n'étiez pas encore en bio à l'époque, alors ?
Ah non, l'exploitation, ouais. Moi je n'ai jamais été en bio. Hein, c'est Laurence et Erwan Leroux qui ont repris l'exploitation et qui sont passés en bio en 2002.
Et à Rosnoyen, l'exploitation. Et c'était quand même déjà de l'élevage laitier.
C'était de l'élevage laitier, oui, à l'origine, oui. Ouais.
Mais en élevage, pourtant, ça aurait pu être intéressant de garder des arbres, non ?
Ah ben non, certainement, non seulement intéressant, mais le remembrement est allé beaucoup trop loin. Même s'il fallait effectivement une certaine révolution, on va dire. Mais je pense qu'on est allé trop loin. Il suffit de voir un petit peu ce qui s'est passé dans toute la Bretagne, d'ailleurs. Et pas que dans la Bretagne, parce que on relate des opérations anti-remembrement dans d'autres régions de France également.
Et alors maintenant, on a compris à nouveau l'intérêt de l'arbre dans une exploitation agricole. Quels sont-ils, tous ces intérêts ?
Je rajoute quand même en plus qu'on a reçu des primes pour arracher les pommiers dans les champs. Et puis maintenant, on donne des primes pour replanter, refaire des talus et replanter des haies. Quoi.
Et vous faisiez quand même du cidre encore ? Il y avait quand même encore
une activité. Oui, c'était une tradition sur l'exploitation agricole, mais pas seulement chez moi, dans beaucoup d'autres exploitations aussi. Et donc, c'est vrai que mon père a toujours été intéressé. On faisait un cidre qui était assez réputé, et donc il adorait greffer déjà. Et puis, il y avait des variétés anciennes sur l'exploitation, aussi bien en pomme à cidre qu'en pomme à couteau. Et donc, il a toujours beaucoup greffé, puis j'ai un petit peu continué ça, disons, où j'essaie de garder des vieilles variétés aussi. Donc, le peu d'agroforesterie que j'ai pu faire, c'est en verger, c'est pas du tout pour replanter ou refaire des talus, malheureusement. Ce que fait maintenant Erwan, ce qu'en font Erwan et Laurence.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, justement ?
Alors, en fait, sur l'exploitation, on a une partie terre en pente, où il y a peut-être eu moins de dégâts sur l'environnement, mais par contre, sur le plateau, on a une parcelle qui fait 25 hectares et qui est à tout vent, quoi, on va dire, qui est sur un plateau, donc exposé, avec quand même une forêt de chaque côté. Mais ça n'empêche que ce plateau-là a été un peu saboté quand on a enlevé tous les talus et puis quoi. Et donc il a replanté. Alors sur un terrain plat comme ça, l'objectif n'est pas forcément d'éviter l'érosion, mais plutôt de créer des brise-vents, on va dire.
Et donc, puis, pour protéger les cultures et les animaux, ou les deux, ouais.
Les deux, ça a toujours été une exploitation d'élevage. La terre n'est pas excellente, avec une terre relativement hydromorphe, et puis en plus des cailloux. Donc ce n'était pas des terres à culture, on va dire, mais c'était des terres à herbage.
Et c'est vrai que pour les animaux, c'est bien d'avoir une protection du vent, quoi.
Ouais, il suffit de voir ces jours-ci, là, les troupeaux de vaches qui sont au bord des champs, le long du talus, pour essayer de trouver un petit peu d'abri, quoi.
Et qu'est-ce qu'on leur met comme variété d'arbres ou d'arbustes ?
Alors, qu'est-ce qu'on met ? J'avoue que je ne sais pas exactement quels plans ont été mis en place par Erwan et Laurence. Ils alternent des plantes, des arbres qui vont donner des hautes tiges, et en même temps, avec des arbustes, genre évidemment de noisetier ou bourdaine, entre deux arbres à hautes tiges.
Et hautes tiges, c'est quoi ?
Hautes tiges, ce sont des chênes ou bien ou des hêtres qui vont pousser plus droit, évidemment, puisqu'il y a de la lumière. À cet endroit-là, c'est des parcelles à l'air libre, on va dire.
Et alors sinon, il y a aussi une... comment dire, les animaux mangent aussi les arbustes ou les arbres?
Alors moi, je suis pas, j'ai aucune expertise dans ce domaine d'agroforesterie où on a l'utilité des arbres, effectivement, qui produisent... les pousses d'arbres, entre autres, sont intéressantes au niveau anti-inflammatoire et auraient des bénéfices sur la santé des animaux. Mais ça veut dire que là, il faut déjà qu'il y ait un certain volume, que ces arbres aient poussé quelques années.
Oui, faut d'abord pour les protéger en premier. Quoi.
Dans un premier temps, oui.
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Et il y a aussi, l'agriculteur ou l'agricultrice doit exploiter, entretenir déjà. Et puis en plus, c'est intéressant peut-être économiquement d'exploiter un peu tout ce qu'a poussé sur les haies ou pas?
Ben oui, parce que mettre des haies, c'est les bénéfices sont bien connus maintenant, mais l'inconvénient, c'est qu'il faut entretenir. Il faut entretenir parce que sinon, ça gagne sur la parcelle. Il y a des pertes de surface quand même assez importantes par chaque petite parcelle qu'on a. Et il faut qu'il y ait en place un circuit, on va dire, d'utilisation de ce qu'on va couper et ce qu'on va entretenir.
Mm-hmm. Et c'est là qu'interviennent les élus, Marc.
Voilà.
Nous sommes chauffés, par exemple, à la radio, à la mairie du Fou, tout ça, on est chauffé avec du bois qui vient d'où
Le bois, en fait, ce sont des producteurs locaux, hein, pour l'essentiel des bois, des copeaux qui sont fournis à la collectivité. Donc on s'efforce d'avoir, bien évidemment, dans le cadre réglementaire, quel cadre des marchés publics, hein, mais donc on réussit à avoir en fait des producteurs locaux, donc qui prennent leur bois en forêt ou en bocage, dans le bocage. Hein. Et donc ça permet, comme le disait Joël, de quelque part on dynamise une filière et on permet à des gens de tirer un revenu en fait des haies qui existent ou qu'ils ont espéré au moins un revenu des haies qu'ils plantent aujourd'hui.
Voilà. Ça peut être transformé en pellet, sinon, Joël, ce bois-là, enfin.
Il y a plusieurs exemples maintenant, effectivement, de filières locales qui se sont mises en place pour la récupération de ces bois-là, qui sont broyés avec des très grosses machines qu'on a maintenant. Mais ça veut dire toute une filière, donc il faut les entreprises de travaux agricoles qui vont venir couper, qui vont déchiqueter ensuite. Et je crois qu'il faut attendre 2 mois avant qu'un bois qui a été déchiqueté soit utilisé dans des chaudières. Quoi.
Ah oui, il faut le faire un peu
donc,
sécher.
Il faut le stocker.
Ah ouais, ouais, c'est ça.
Donc ça, on imagine mal un agriculteur qui fasse lui-même l'ensemble de la filière, quoi.
Ah ouais. Oui.
Oui, donc ça suppose que les communautés de communes s'emparent un petit peu du sujet aussi et puis mettent en place, essaient de créer ou poussent à créer ces filières là, quoi.
Et Marc Pasqualini, il y en a des filières vraiment comme ça qui se mettent en place, enfin.
Oui, bien sûr. Donc là, par exemple, aujourd'hui, les pellets que vous évoquez, donc ouais. Il y en a qui vont dans le centre Finistère, il y a des entreprises, ou déjà le centre Bretagne, en tout cas, il y a des entreprises qui transforment en fait du bois en pellets. Parce que c'est...
Elles vont chez les agriculteurs, enfin, il y a ça, il y a les entreprises agricoles, de travaux agricoles qui vont chez les agriculteurs, il y a des groupements d'agriculteurs qui font du bois.
Je vais parler par exemple d'un établissement un petit peu exemplaire, c'est Quad Bromont-Troulès, donc qui alimente notamment la piscine de Morlaix à partir de bois dont ils s'engagent à ce qu'ils ne proviennent pas d'endroits situés à plus de 30 km de la piscine.
Ah oui.
Voilà, donc on a la volonté effectivement donc de permettre à des agriculteurs de valoriser leur bocage, des entreprises locales qui vont venir chercher le bois. Et il sera stocké donc à Pleyber-Christ dans des hangars assez importants où il va rester là pendant quelques mois, le temps d'avoir le bon degré d'hygrométrie avant d'aller dans les chaudières.
Ouais. Donc ça, c'est un modèle à reproduire.
Je pense vraiment que c'est un modèle à reproduire. Et Quad Bromont-Troulès aussi s'est investi dans le développement avec l'ADEME.
L'Agence de la maîtrise de l'énergie.
Oui, l'Agence de la maîtrise
de l'énergie. De l'environnement maintenant.
Pour l'environnement. Ouais. Donc dans le développement de réseaux de chaleur, par exemple.
Oui.
Donc le réseau de chaleur a besoin de bois et la filière bois et les agriculteurs qui peuvent fournir du bois, tout ce monde-là peut travailler en partenariat de manière très, très, très intéressante.
Mmh. Et Joël, est-ce que ça serait pour un agriculteur, il pourrait s'y retrouver financièrement si c'était bien organisé
Je pense parce qu'on a un exemple aussi, c'est un petit peu plus loin, c'est en Ille-et-Vilaine. où une commune qui s'appelle Martigné-Ferchaux, je crois, a créé vraiment un projet très... Enfin, c'est même plus un projet, c'est en place, une filière complète, effectivement, où les agriculteurs sont payés, effectivement, à la tonne de bois déchiqueté. Et ce qui permet, d'une part de le valoriser, bien sûr, mais aussi le temps passé, parce qu'on sait exactement maintenant combien il faut de temps pour entretenir une haie. Mm-hmm. Et donc, à partir du moment où on décide que ça a un tel prix, ça a un certain coût pour l'agriculteur, mais si l'agriculteur est payé en contrepartie pour ce bois, ben c'est gagnant-gagnant, quoi.
Et les espèces les plus intéressantes, c'est quoi comme type de bois ?
Non, justement, moi, j'ai pas vraiment d'expertise. D'accord. Je suis sur le terrain, mais j'étais sur le terrain en tant qu'agriculteur, mais j'ai pas participé à ça directement. Donc, mais je pense que, je sais pas, vous avez entendu parler de l'EPAGA, peut-être.
Bien sûr, ouais, voilà. Bien sûr, ils vont venir, voilà. Ils reviennent régulièrement à la radio.
Qui ont des techniciens bocage. Qui ont, eux, toute l'expertise pour conseiller les agriculteurs sur la...
Les bonnes essences.
Voilà, les bonnes essences à mettre en place, bien sûr.
Oui. Ouais. Donc ça, c'était pour l'agriculture. Et alors, Marc, on va bifurquer vers la ville, même le fou, il n'est pas une grande ville, mais l'arbre en ville, c'est quoi les intérêts de l'arbre en ville ? On va les rappeler ?
Déjà, je rejoins Joël sur ce que tu disais, Joël, sur le problème de le problème entre guillemets, bien évidemment, que peut présenter un arbre par rapport aux riverains. Hein. Tu plantes un énorme pin cygnus qui va devenir énorme et donc toutes les épines vont aller dans la gouttière du voisin. Ça fera pas plaisir, ça passera pas. En ville, c'est un peu la même chose. Hein, donc les arbres qui ont été plantés, donc ont été plantés pour l'essentiel, les vieux arbres que l'on connaît aujourd'hui ont été plantés à une époque où on mettait pas d'enrobés. Donc, ils pouvaient développer leurs racines un petit peu.
Il n'y avait pas d'asphalte partout.
Il n'y avait pas d'asphalte partout. Les milieux étaient relativement perméables. On a imperméabilisé pour les raisons qu'on peut comprendre, bien évidemment.
Pratique, on va dire.
Pratique. Et donc, aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple, par exemple, des platanes route de Châteaulin. Ouais, ici, c'est, je pense, un très, très bon exemple.
Exactement.
Donc, quand on voit les nounous, quand on voit les nounous du fou qui se baladent...
En poussette,
et qui ont beaucoup de mal à passer parce qu'il y a les racines de très jolies platanes qui font des bourrelets un peu partout, c'est un problème. Les feuilles constituent un problème dans les gouttières des riverains. Ça glisse quand ça tombe. On n'est jamais à l'abri d'une branche qui se détache et c'est par rapport à tout cela qu'on a quelque part tâché de retirer l'arbre de la ville.
Alors qu'il apporte quand même, maintenant on le sait, des bienfaits.
Ouais, enfin... non, je crois que ça n'a échappé à personne que surtout. On a eu, je crois, une journée de canicule cet été.
Oui, on s'en est bien sorti, on va dire.
Oui. Ouais. Et donc, il y avait une entreprise qui travaillait route de Châteaulin, justement, et qui disait, heureusement qu'il y a ces platanes-là. Il y a pratiquement 10 degrés de différence entre le fait de se trouver sous les platanes et se retrouver à quelques centaines de mètres plus loin sans aucun abri. Voilà, donc les arbres, ce sont des îlots aujourd'hui de fraîcheur. Hein. Ce sont des...
Est-ce qu'ils sont dépolluants, comme on dit, vraiment, ou pas ?
Ils participent à des pollutions, notamment carbonées. Hein.
Ils absorbent du carbone. Quoi.
Ils absorbent. Ouais. Après, sur les métaux lourds et tout
les particules, tout ça, c'est pas sûr. Quoi.
Je m'aventurerai pas à donner quoi que ce soit comme information là-dessus. J'ai pas les compétences pour ça.
Mm-hmm. Mais alors, il y a un compromis qui peut être trouvé en ville, je crois, c'est de mettre des fruitiers en ville. Ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, je crois que le fou a un projet de verger là.
Déjà sur Rumingol, donc l'aménagement du centre-bourg de Rumingol, ça a été fait donc en considérant l'intérêt que peuvent présenter justement les arbres fruitiers. À noter d'ailleurs que à chaque fois qu'il y a une crise, et ça c'est les pépiniéristes qui le diraient mieux que moi, à chaque fois qu'il y a une crise, en 2008 il y a eu une crise, il y a eu le Covid, enfin à chaque fois qu'il y a une crise, la vente des arbres fruitiers explose. Le bon sens paysan, nos racines paysannes que l'on a tous en nous se révèlent à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, il y a des ventes de fruitiers qui sont énormes. Et donc, c'est aussi le rôle de la collectivité de montrer quelque part l'exemple en mettant du fruitier en centre-ville.
Et il y aura un verger, alors, au fou aussi.
Il y aura un verger. Là, ce sera donc dans un périmètre de protection de captage d'eau potable à Pénarverne. Donc, la collectivité a acheté 4 hectares. Et l'idée, donc, c'est effectivement d'installer un verger qui serait à double objectif, en fait, un objectif à court terme, parce que pour un élu, le court terme, c'est bien aussi. Et voilà, donc, du court terme et du long terme.
Donc, il n'y aurait pas que des pommiers.
Non, non, non. Essayez d'aller vers du pommier, du poirier, du châtaignier, du noyer, du figuier.
Et des merisiers, non ? Des cerises.
Des cerises, allez, oui, quelques cerises allez. Aussi. Essayez de varier ouais. au maximum. Je crois que la diversité, plus on varie les variétés, que ce soit des variétés anciennes de pommiers, où il y en a des centaines, hein, mais varier aussi, mettre du pommier, du poirier. On peut aujourd'hui mettre même, j'ai un ami qui met de la mandarine.
Et oui, c'est ça y est. Bah oui, on a fait une émission il n'y a pas longtemps. Ouais.
En parlant de réchauffement
climatique. Les agrumes. Bah, ouais.
Voilà, les agrumes.
Okay.
Voilà, donc varier les choses et puis faire du moyen terme sur 5-6 ans, des arbres qui produisent à moyen terme et des arbres qui produisent à long terme.
D'accord.
Voilà.
Alors, il nous reste une minute, hein, c'est pas beaucoup pour parler du plan du département. On peut toujours en profiter pour, si on veut planter des arbres, c'est ça ?
Oui, absolument. Le plan 500 000 arbres qui se déroule sur, sur 10 ans, jusqu'en 2030 ou 32 de mémoire, j'ai plus ça en tête. Mais donc l'idée, c'est de planter 500 000 arbres donc en invitant et en subventionnant de manière importante à 80% les collectivités.
Donc c'est les collectivités surtout qui sont aidées ?
Les agriculteurs aussi. Hein.
Et pas les particuliers ?
Les particuliers, pas pour l'instant.
Non. D'accord, on ne peut pas écrire au département et dire moi je veux planter des arbres, est-ce que je peux avoir les sous ou les arbres ?
Après, il y a énormément de dispositifs hein, qui permettent à un particulier qui veut planter une haie ou un verger, il y a des dispositifs qui existent en dehors du plan départemental hein, pour cela. Hein. Braise-bocage, les pagas, en fait, il y a toutes les compétences et toutes les entreprises nécessaires pour boiser aujourd'hui et avoir des financements pour le faire.
Et même si on a acheté une parcelle pour faire une forêt, le département peut aider éventuellement, non ?
Sur un particulier, c'est plus compliqué. Ouais. Pour une association, oui.
D'accord. Bon, bah, créer des associations pour planter des arbres, voilà. Bah, merci à tous les deux. On pourra réécouter, bien sûr, cette émission sur le site internet. Et puis, on retrouvera très certainement les citoyens du climat une prochaine fois en 2026. Merci.
Merci.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.